Bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blanc au micro et Maurice Bolduc à la technique. Voilà, cette dernière de la semaine, belle journée de vendredi. Comme je l'ai toujours dit, je me répète, hein, toutes les émissions de Canal M sont sur toutes les plateformes numériques. C'est pas seulement Escale 1718, toutes les émissions. Voilà, en première partie d'émission, j'ai concocté quelques différents sujets pour vous. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la journée internationale du vélo. Les amateurs de vélo. Alors, et ça tombe bien parce que c'est le Tour de Lille et en même temps, il y a la nuit du vélo, la nuit des cyclistes aussi aujourd'hui, c'est vendredi. Et puis bon, demain, c'est pas demain ou dimanche, là on va avoir le Tour de Lille, la journée internationale du vélo, de la bicyclette, c'est le 3 juin. C'est comme ça. Voilà, ceux qui n'en ont pas, allez-y, prendre un vélo en location chez Bixi ou bien chez d'autres locataires là pour savoir si vous pouvez faire un petit tour de ville ou bien juste participer un peu à la journée internationale de la bicyclette, du vélo. Voilà, et puis bon, je vais toucher un peu aussi à ce qui se passe là-bas de l'autre côté de l'océan, à Paris, à Roland-Garros tennis, et puis il y a le sommet de la Terre à Stockholm plus 50 en Suède. Et puis je vais parler de l'importance de l'année 2022 pour l'action climatique. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Steve Marcoux, qui est le président de la boîte à musique. Il va nous parler de l'histoire de la boîte à musique, son aspect à faire, rapprochement d'un bassin de musiciens. Si vous voulez en savoir plus, restez à l'écoute. En deuxième partie d'émission, il va nous parler de ça. Voilà. Comme je le disais, je commence tout de suite avec le sommet de la Terre et puis parler de la journée de la bicyclette. La journée internationale de la bicyclette. Voilà, c'est comme ça. Ceux qui n'aiment pas le vélo, il va falloir s'y mettre, hein, parce que nous qui habitons Montréal, partout, il y a des boulevards, des autoroutes cyclistes, des autoroutes pour les cyclistes. Voilà, et les voitures qui n'ont même pas le droit de faire des allers-retours sur certaines parties de rue, c'est bloqué des deux côtés, c'est les cyclistes qui ont le monopole. Il faut s'y mettre, le sommet de la Terre, on commence par là. Voilà. À Stockholm, ça a commencé hier et puis ça se finit aujourd'hui. Je pense bien que d'ici lundi, j'aurai le communiqué final pour pouvoir vous parler de ça. L'heure n'est plus à la prise de conscience, mais à l'urgence. Voilà, nous consommons au rythme de 1,7 planète Terre par an, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et si la consommation mondiale était au niveau des pays les plus riches du monde, il nous faudrait plus de 3 planètes Terre. Je dis bien 3. Nous sommes confrontés à une triple crise planétaire, à une urgence climatique, d'ailleurs, qui tue et déplace de plus en plus de personnes chaque année. Là, ça va venir. De toute façon, ça va être un terme bientôt, hein. Les réfugiés climatiques, c'est déjà... Les médias en parlent très peu, mais je pense que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, ça va être le vocabulaire à la mode. Les réfugiés climatiques, parce que Dame Nature ne nous fera pas cadeau avec tout ce qui se passe maintenant. Et la première ministre suédoise Magdalena Andersson, quant à elle, a évoqué le risque de la guerre en Ukraine, fasse oublier la crise climatique. Non, nous ne devons jamais laisser une crise en éclipser une autre. Il faut être conscient, bien sûr. Nous devons juste travailler plus dur. Et la guerre en Ukraine a également montré très clairement que la dépendance aux combustibles fossiles n'est pas seulement un risque climatique, c'est aussi un risque sécuritaire. Et il faut que cela cesse. Je ne sais pas, j'ai bien hâte d'avoir le communiqué final pour en parler la semaine prochaine. Donc durant ces deux jours, c'est-à-dire depuis hier et aujourd'hui, il y a des représentants de pays d'organisations internationales qui participent à cette conférence Stockholm plus 50. Vous voyez, ça fait 50 ans qu'il y a ce sommet de la Terre. Voilà. C'est objectif, échanger des idées et préparer des accords en vue des prochains sommets sur le climat. Et puis ces rencontres du sommet de la Terre, c'est des rencontres décennales, ça se dit c'est aux 10 ans. C'est pas tous les ans, c'est pas biennal, c'est aux 10 ans. Voilà, c'est comme ça. Alors on dit des rencontres décennales. Ouais, ça c'est très intéressant, il faut en parler parce que chacun de nous est concerné. Et Je pense bien qu'il faut vivre sur une autre planète. Bon, de toute façon, il y a des gens qui sont en train de voir pour savoir s'ils peuvent s'installer sur la Lune ou bien dans l'espace quelque part d'autre avec les appareils, les avions, les fusées ou bien je ne sais quoi pour faire des voyages touristiques ou bien aller définitivement. Je ne sais pas où est resté ce projet de voyage sans retour sur la Lune ou bien dans l'espace, je ne sais quoi. C'était à la mode avant la pandémie et tout d'un coup, on ne nous parle plus de ça. Il y a des gens qui étaient prêts à aller faire l'expérience et aller s'installer sur une autre planète avec un billet aller-retour, sans, un billet aller simple, sans retour, pour être des explorateurs. Si ça se passe bien, il y a d'autres qui iront les rejoindre. Voilà. Stockholm, quelles sont les attentes de Stockholm? Je sais pas. Ouais. Il y a 30 ans, à Rio, d'ailleurs, s'était tenu le sommet de la Terre qui avait le plus marqué l'histoire. Hein. Ça, c'est. Mais en 3 décennies, peu de choses se sont malheureusement améliorées en matière de lutte pour la préservation de la nature, tandis que la crise climatique s'est renforcée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en gros, nous en tant que citoyens, oui, nous en tant que les autres, en tant que politiques, les autres en tant qu'entrepreneurs. J'en parle souvent ici quand je touche à ce problème ou bien quand je tombe sur un article qui me plaît. Ouais, j'aime partager avec les auditeurs, les gens qui nous écoutent. Donc il y a trois, il y a le sommet de la Terre, à la fois le climat, la biodiversité et la population. La population, ça va être les réfugiés climatiques, hein. Ça c'est, il y a 3 grands sujets qui se rejoignent et symbolisent aussi cette triple crise planétaire que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a désigné comme la menace existentielle numéro 1 et qui exige, bien sûr, un effort exigeant et total pour renverser la situation. Voilà. Même si c'est symbolique, hein, beaucoup de gens, j'ai entendu des gens dire, que ce soit sur le web ou bien à certaines émissions de radio ici ou bien d'ailleurs, que c'est symbolique que le sommet de la Terre de Stockholm 2022, c'est fortement... Mais c'est bien attendu, tout le monde fait attention, on se dit, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme communiqué, alors que la crise écologique n'a jamais été aussi tangible depuis le début de l'ère industrielle, ça c'est vrai. Alors, de toute façon, il n'y a pas de bisounours entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Comme on le dit, en train de s'industrialiser aussi, les pays en voie de développement disent aux pays industrialisés, c'est vous qui avez pollué, c'est vous qui devez dépenser, c'est vous qui avez créé ce désastre. Alors ne nous demandez pas de ne plus utiliser quoi que ce soit pour ne pas nous développer nous aussi. Nous aussi, nous voulons nous développer. C'est le dialogue qui se tient dans ces gens, durant ces genres de rencontres-là. Et les pays du Sud, bien sûr, c'est-à-dire le Nord contre le Sud. Qui a raison, qui a tort, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que chacun de nous doit prendre conscience, mais les pays occidentaux, qui sont les pays développés, et doivent reconnaître ce qu'ils ont fait durant des décennies, durant des millénaires, et pour se développer, charbon et autres, je ne sais quoi encore, mais faut pas dire aux autres, ah non, arrêtez de vous développer, n'utilisez plus ça. Et ils feront déjà un effort là-bas de l'autre côté. Et il faut le dire parce que ces pays du Sud aussi ont d'autres chats à fouetter. Mais ils sont très conscients. J'ai vu certains reportages des pays du Sud, dans certains pays du Sud, qui sont même plus avancés écologiquement parlant que certains pays du Nord. Alors voilà, malgré les situations fragiles, financières, économiques et autres. Il faut être prudent quand on aborde ce sujet-là. Alors, donc le deuxième volet du dernier rapport du GIEC, présenté en début d'année d'ailleurs, a d'ailleurs alerté sur les effets déjà visibles du changement climatique à plus 1,09 degrés Celsius en 2021, avec des manques d'eau, de nourriture récurrents, en particulier en Afrique et en Asie, et l'émergence de nouvelles maladies et la réduction de moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales de la planète. On espère, pour Stockholm 2022, oui, en Suède, là, on espère dresser un bilan de la situation, mais aussi apporter des réponses adaptées à l'urgence qui nous fait face. Hein. Je pense bien que, voilà, à l'issue de ces discussions, un conseil de la Terre doit être créé, ainsi qu'un institut sur les océans et sur le climat. Des mesures devraient être également annoncées pour les décennies à venir. J'espère qu'ils vont arriver à quelque chose de positif. Il y a 30 ans d'ailleurs, ce rendez-vous est devenu la référence en matière de protection de l'environnement. Oui, c'est devenu la référence, mais est-ce que ça avance positivement ou bien ça stagne? Est-ce que les gens sont conscients? Est-ce que les décideurs, est-ce que les pollueurs sont conscients? C'est la question qui reste posée. Il y a la Convention sur la biodiversité biologique, il y a la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, il y a la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui pose le principe des responsabilités communes, mais différenciées bien sûr, des États selon leur niveau de développement, comme je venais de le dire. C'est de la rencontre de Rio en 92 d'ailleurs, et qui découle ensuite les dispositions signées lors du protocole de Kyoto en 1997, notamment sur les objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre pour limiter le changement climatique. À l'époque, les gens disaient « Oh, c'est très loin, de toutes les façons, tout ça, c'est du... Qu'est-ce que les scientifiques nous racontent ?» Mais on est en plein là-dedans, on a les deux pieds là-dedans, je ne sais pas ce que ça va donner, voilà. Donc c'est à Rio d'ailleurs qu'a été adopté l'agenda 21 qui reprend 27 principes pour faire face aux problèmes du siècle prochain. Alors, c'est-à-dire quoi ? Du 21e siècle dans lequel on est actuellement. Parmi ces principes, on retrouve notamment celui de développement durable. Alors, j'ai assez parlé de ça. Je vais revenir sur ça la semaine prochaine. Si je mets la main sur le communiqué final pour vous informer, on va revenir parce qu'il y a 10 événements pour 2022, hein, 10 événements à suivre au cours de cette année, cette nouvelle année, l'importance de l'année 2022 pour l'action climatique. Depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'en décembre 2022, je vais faire le tour après une petite pause musicale. Je vous reviens. À tout de suite. Moving on, voilà. Alors, je vais rester dans ce cadre-là pour parler de la Journée mondiale de la bicyclette. Mais bien avant ça, je vais donner quelques dates bien précises. Les 10 événements à suivre au cours de cette nouvelle année, bien sûr. J'en avais parlé d'ailleurs en début d'année. Mais je reviens là-dessus. Là, on a déterminé 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, Doha et autres. Et voilà. C'est quelque chose qui, il faut le dire, hein, parce qu'on se dit, pourquoi il y a tellement de rencontres comme ça, mais il n'y a pas d'évolution dans cette histoire de changement climatique ou bien de dégradation de la nature, si on veut, on le veut bien. Voilà. Voilà. C'est à déterminer. La 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, ça s'est passé à Doha, au Qatar. Il existe 46 pays allant de l'Afghanistan à la Zambie, considérés comme les pays les moins avancés, qui abritent d'ailleurs environ 13% de la population mondiale. Ça, c'est, tout ça, c'est sur le site de l'ONU. Hein. Voilà. un.org/climate change. Vous allez trouver toutes ces informations que je vous donne là. Alors là, c'est. Ça abrite environ 13% de la population mondiale et 40% des personnes les plus pauvres. Donc, ils sont très vulnérables à d'innombrables chocs, que ce soit sur le plan économique, de la santé publique ou des changements climatiques. Ils restent aux premières loges de la crise climatique et sont touchés de manière disproportionnée par les phénomènes météorologiques extrêmes. Voilà. C'est ça. Mais il y a un problème auquel ils sont confrontés, c'est les financements. C'est ça. Donc, il faut faire attention. De février à octobre, il y a eu le rapport d'évaluation du GIEC mondial, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, J-I-E-C, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui publie des évaluations, voilà, des publications qui font trembler tout le monde entier d'ailleurs. Quand on voit ce genre de publication, tout le monde tremble devant sa télévision, on se dit... ou bien devant son ordinateur, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive encore? Alors là, c'est affolant, c'est troublant. Et qui publie des évaluations climatologiques tous les 6 à 7 ans, qui a lancé son premier rapport d'évaluation complet depuis l'élaboration de l'accord de Paris en 2015. Ça va vite, hein? Paris, 2015, on est en 2022, ça passe. Donc, le 6e rapport d'évaluation du GIEC qui a englobé les contributions de 3 groupes de travail dirigés par certains des plus grands scientifiques du monde d'ailleurs, concernant respectivement la compréhension du système climatique et des changements climatiques sur le plan physique. Voilà, premier groupe de travail, publication du mois d'août 2021, l'année passée, les effets des changements climatiques. Deuxième groupe de travail, les progrès en matière d'atténuation et les efforts visant à limiter des émissions. Et puis, en 21 février, il y a eu le rapport du deuxième groupe de travail, effet adaptation et vulnérabilité. Le 28 mars, il y a eu le rapport du troisième groupe de travail, atténuation des changements climatiques. Ah, oui, c'est ça. Le 3 octobre, il y aura le rapport de synthèse, octobre 2022, changement climatique. Le rapport de synthèse, changement climatique le 3 octobre, enfin, ouais. Et qui va intégrer les contributions des 3 groupes de travail ainsi que les conclusions des rapports spéciaux produits dans le cadre du cycle réchauffement planétaire 2,15 degrés Celsius, changement climatique et terre émergée. Voilà. Et l'océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique. Voilà. Ça va être lancé tout ça avant la COP 27. Et du 28 février au 3 mars, il y a eu la semaine du climat du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Ça s'est passé à Dubaï, aux Émirats Unis. Et puis ensuite, du 25 avril au 8 mai, il y a eu la conférence des Nations Unies sur la biodiversité, deuxième partie en Chine, à Kunming, en Chine. Ça s'est passé là-bas. Du 2 au 6 mai, il y a eu le 15e congrès forestier mondial, qui s'est passé à Séoul, en République de Corée, et puis du 9 au 20e mai, il y a la 15e conférence des Nations Unies sur la désertification. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, j'en ai parlé ici d'ailleurs. Et de le 2 et le 3, c'est-à-dire hier et aujourd'hui, ça se passe à Stockholm plus 50 en Suède. Ça c'est, donc il y a 50 ans, je venais d'en parler, la première conférence mondiale sur l'environnement a joué un rôle important en attirant l'attention sur le caractère indissociable des objectifs de réduction de la pauvreté et de production de l'environnement. Tout ça, et puis il y a eu le 11e forum urbain mondial aussi en Pologne, à Katowice, du 26 au 30 juin. Du 27 juin au 1er juillet, il y aura la conférence des Nations Unies sur les océans. Ça va se passer au Portugal, et puis un autre gros. Une autre grosse conférence qui arrive encore du 7 au 8, 18 novembre, ça va être la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Tout le monde attend ça. On verra bien ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'ils vont sortir comme communiqué final là-bas? On verra ce que ça va donner. Je ne sais pas, mais j'ai bon espoir qu'il y aura quelque chose de, d'intéressant à nous communiquer. J'espère. Je vois ta main là-bas, Maurice. Voilà. Journée mondiale de la bicyclette. Je ne sais pas si j'ai encore du temps avant de... Voilà. Okay. Pourquoi consacrer une journée à la bicyclette? Au fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, pourquoi? Bon, c'est pas la première fois. Ça date de quelques années déjà. C'est une activité physique régulière. Hein. Allez-y sur le site de l'ONU, vous allez voir, c'est l'UN.org. Et c'est une activité physique régulière d'intensité modérée, comme la marche, le vélo ou la pratique d'un sport qui est bénéfique pour la santé. Vous savez, ici, à sur les ondes de Canal M à Excal 1718, c'est l'un de mes sujets de prédilection, l'environnement, la biodiversité, le climat, j'en parle souvent, je reviens là-dessus. Donc quand je tombe sur des choses comme ça, des articles comme ça, je ne peux pas ne pas me permettre de ne pas en parler. À tout âge, les bienfaits de l'exercice sont supérieurs au risque potentiel d'accident, par exemple. Toute activité physique vaut mieux que l'absence totale d'exercice. Toute activité physique, marcher, courir, faire des étirements, la natation, faire du vélo. Je fais un clin d'œil, voilà, à ceux qui font du vélo tous les jours, ou bien qui font du vélo quelques jours dans la semaine, ou bien quelques heures dans la journée, pourquoi pas. Ou bien ceux qui marchent tout le temps. Ceux qui marchent tout le temps, oui, 3, 4, 5 kilomètres par jour, mais peut-être 2, peut-être 3. Ça fait du bien, pourquoi pas. Et il ne faut pas oublier même les pas qu'on fait chez soi, à domicile. Voilà, de chambre à la cuisine, du salon, aller descendre, aller au sous-sol, tout ça c'est du physique, c'est de l'exercice. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, des infrastructures plus sûres pour la marche et le cyclisme permettraient notamment d'assurer l'équité en matière de santé. Pour éviter aussi l'obésité, les maladies graves. Il y a des gens qui, même pour aller chez l'épicier, ils vont prendre leur voiture, alors que c'est 5-10 minutes à pied. Voilà, ils veulent arriver en 2 minutes. C'est comme s'il y a quelqu'un qui va au restaurant, il veut manger avant qu'il ne passe la commande, quoi. Voilà, plus pressé que son ombre. Manger avant de passer la commande, le restaurateur va devenir fou. Bon, en effet, pour les communautés urbaines et les plus pauvres, la marche et le vélo constituent des moyens de transport plus économiques pour se déplacer, parce que c'est pas... Surtout avec la montée des prix du carburant. Voilà, et lorsqu'ils sont encouragés, bon, ils peuvent aussi avoir d'importants bénéfices sur la santé, car ils permettent de réduire le risque de maladies cardiaques. Ça aussi, et c'est pas la seule maladie qu'on peut éviter. Quand on ne bouge pas, il y a un problème d'obésité, on grossit. La circulation sanguine, ça joue aussi. On n'a pas besoin d'être scientifique, on n'a pas besoin de l'université pour ça. Voilà, que de passer des heures à l'ordinateur sans toutefois se lever au moins toutes les demi-heures, ou bien toutes les 45 minutes, ou bien toutes les heures, toutes les 60 minutes, se lever de son ordinateur, ou bien... De sa télévision, voilà. Pour essayer de se dégourdir un peu les jambes, ça fait du bien. On n'a pas besoin d'études supérieures pour ça, non? Ouais. Ça permet de réduire le risque, des risques d'accidents vasculaires, cérébraux, certains cancers aussi, diabète et même des décès. Donc, oui, il faut bouger. Il faut répondre aux besoins des personnes qui se déplacent à pied, à vélo, reste un élément essentiel de la solution de mobilité pour aider les villes à dissocier la croissance démographique de l'augmentation des émissions. Ça aussi, je comprends. Et il faut que chacun de nous fasse sa part pour améliorer la qualité de l'air et la sécurité routière. Voilà, tout ça, ça fait partie du devoir de chacun de nous. Oui, si je peux appeler ça devoir, si je peux me permettre. La pandémie a également conduit de nombreuses villes à repenser leur système de transport. On tenait pour acquis tout ça. Hein. Oui, la pandémie a nous a prouvé, nous les humains, nous qui sommes sur cette terre, que nous ne sommes rien. Voilà, 2 ans, c'est même, ça continue d'ailleurs, on n'en parle plus maintenant parce que par-ci, par-là, il y a des élections. Donc la bicyclette et le développement durable. Ça permet de quelque chose. Est-ce que j'ai encore quelques minutes là? Oui. Oui. Je peux continuer la bicyclette et le développement durable. Ça aussi, ça fait du bien. Ouais, la journée mondiale de la bicyclette attire l'attention sur les avantages. Il faut l'utiliser. Et je suis très content que la ville de Montréal, avec cette histoire de tour de la ville, de l'île, pardon, permet à beaucoup de gens qui les amoureux du vélo, les amoureux des deux roues, de se défoncer en fin de semaine, parce que chaque fois que je les vois, je suis très content. Presque toutes les rues sont barrées. Il faut se déplacer à pied ou bien à vélo, sinon en voiture complètement, on va faire le tour de l'île. Il n'y a pas de rue, surtout du côté du plateau, Rosemont, Petite Patrie, Villeray ou tout ça. On va faire le tour, il y a des policiers partout, c'est les cyclistes qu'on voit, ils sont prioritaires, ils sont rois. Donc cette fin de semaine à Montréal, je profite de cette journée mondiale de bicyclette, parce que ça, il faut le dire, et faites très attention dans vos déplacements en voiture. Ouais, les cyclistes seront rois cette fin de semaine. Donc, il n'est pas question de vouloir aller sur le plateau ou bien dans le quartier, dans les quartiers dont je viens de parler, au volant de votre voiture. Sinon, vous allez faire le tour. Il n'y a pas de passage. Voilà. Et puis, il y a l'objectif aussi, la vélo sans âge, c'est d'améliorer le bien-être des personnes âgées en les remettant en selle. Et je vois d'ailleurs, moi, quand je me promène, je vois des personnes d'un certain âge qui utilisent de plus en plus le vélo, qui sont très, j'appelle pas ça être sportif, mais qui sont très actifs. Voilà, je peux dire ça. Voilà, les personnes d'un certain âge, ça c'est pas les jeunes de 18, 20, 30, 40 ans, mais au-delà, qui sont très actifs et qui marchent quand il fait beau, ils sont bien chaussés bien sûr. Et puis voilà, la marche, c'est tout ce que ça demande. Hein. Alors, aujourd'hui, profitez-en, c'est la journée mondiale de la bicyclette le 3 juin, et cette fin de semaine, c'est le tour de l'île. Voilà, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité, Steve Marcoux, qui va parler, qui est le président de la boîte à musique, qui vient me parler de l'histoire de la boîte à musique. Ouais, à tout de suite, restez à l'écoute.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la deuxième partie de l'émission. Mon invité est déjà au bout du fil, Steve Marcoux, qui est président de la boîte à musique. Il va nous parler de l'histoire de la boîte à musique et puis à faire comment ça se passe, rapprochement d'un bassin de musiciens. Je pense bien qu'il en a vu. Il en a vu là-bas, hein, les artistes passer là dans cette boîte à musique. Alors, ça c'est quelle histoire, qu'est-ce qui se passe, l'histoire un peu. Il va nous expliquer ça un peu. 30 ans. Ah, laisse-moi lui dire bonjour d'abord. Bonjour Steve Marcoux.
Bonjour,
bonsoir. Ouais, alors, cette histoire, la boîte à musique, là où tout a commencé pour une multitude d'artistes, des musiciens, des groupes du Québec. Et c'est parler. En gros, on va commencer par l'histoire. Depuis quand? Bon, 30 ans, voilà, que cette boîte à musique existe. Avant qu'on attaque en dernière partie de notre conversation du déménagement, comment est venue cette idée, qui a créé cette boîte à musique, comment elle a survécu, combien de visages de groupes où cette boîte a vu là-bas?
La boîte à musique, ça existe depuis 1955. Ça a été fondé par M. Guy Lotte.
Oui.
Guy Lotte, qui était un Français qui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 50.
Oui.
Lui, c'était un musicien. Il a eu des orchestres. Il a ouvert un magasin de musique. En fait, c'était une petite école de musique qui est devenue une petite boutique qui a toujours continué de grandir. Mais lui, sa particularité, c'est que il faisait de la location, ce qui ne se faisait pas à l'époque.
Oui.
pour avoir pour gagner une clientèle, dans le fond. Il enseignait les vents, la clarinette, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et pour pouvoir enseigner la clarinette, à cette époque-là, à Montréal, c'était pas très, très riche. Donc, il offrait de les louer. Donc, vous louez une clarinette, je vous donne des cours. Puis, bon, de fil en aiguille, la boîte à musique est devenue quand même assez importante dans le portrait...
Du paysage musical.
Du paysage musical.
Oui.
Ça a toujours grandi depuis les années 50. Ça a changé plusieurs fois d'endroit. J'étais pas là.
Ouais, ça, c'est clair.
moi, je suis arrivé en 96 comme client. La première fois que j'ai mis mes pieds dans la boîte à musique, qui était à ce moment-là sur Ontario déjà.
Oui.
La bâtisse sur Ontario... qui était Guillotte avait eu l'idée de génie de dire bon ben je loue des instruments de musique. Il en vendait un petit peu moins à cette époque-là. C'était devenu vraiment un spécialiste de la location.
Oui.
Pour les festivals, les événements et tout. Mmh. Il s'est dit ben quelle belle bâtisse pour avoir des studios de répétition.
Wow.
Et ben c'est devenu ça. C'est devenu une bâtisse. Avec un espace boutique et location.
Oui.
Et au rez-de-chaussée, et les trois autres étages sont devenus des studios de répétition.
Wow! Ouais, génial.
Et tout ça depuis 30 ans. Fait qu'en 30 ans, là, dans le paysage musical québécois, là, on les a toutes vues passer, ou à peu près. La boîte à musique intervenait, puis intervient encore, beaucoup... avec les artistes québécois dans le début de leur carrière.
Oui.
La portion location, je dirais, location d'instruments de musique, c'est beaucoup l'événementiel. C'est vraiment deux clientèles complètement distinctes. La location, c'est les festivals, les événements, la télé, les fêtes nationales, les grands événements musicaux. On intervient beaucoup où il y a des artistes internationaux. Le 22-22 Ontario, c'était la clientèle de musiciens et d'artistes directement.
Wow! Alors,
c'est pas mal d'histoire.
Ouais, vous en tant que nouveau président.
Ouais.
Comment?
Ça fait quand même un petit bout de temps, là. je suis là depuis. J'ai commencé. Client en 96, j'ai commencé à travailler là en 2000. Je suis devenu gérant ou patron, si on veut, en 2003, racheté la compagnie en 2007.
Oui.
Et puis, voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, oui. Ça fait 20 ans, 22 ans aujourd'hui.
Vous ne regrettez pas d'avoir financé ça, d'avoir acheté?
Jamais! non. Regretter, non, même si les deux dernières années ont été... extrêmement difficile.
Oui, oui. Oui, les deux ans de pandémie, faites allusion à ça, quoi, oui.
Oui, oui, les deux ans de pandémie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile.
Oui.
Bien que dans le je pourrais dire le grand public, c'est un peu terminé, dans le monde de la musique ou de l'événementiel, je dirais, ça va être encore très difficile pendant quelques années encore. Beaucoup de très bons techniciens ont quitté pour aller travailler dans d'autres domaines.
Dans d'autres domaines, oui. Parce qu'ils ont peur. Beaucoup ont peur qu'on revive une autre situation pareille, quoi.
Exactement. Ben, aussi, il fallait gagner sa vie.
C'est ça, il faut vivre, il faut payer le loyer, les factures, oui.
Donc, mais sinon, non, il n'y a jamais eu de regrets. ça a toujours été. Comment je peux dire ça? La passion a toujours fait partie de ce qui fait qu'on est là-dedans encore. S'il n'y avait plus de passion, on serait plus là.
Oui, oui, oui.
Et c'est le fun de pouvoir se dire qu'on a participé à l'essor ou la montée de... pas un artiste en particulier, mais une génération.
Oui.
D'artistes. Mmh, mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous reste.
Oui, oui, Oui. Voilà, bon, on va parler un peu de Bamco Concert, le petit nouveau de la famille, Bamco Concert.
Ouais, Bam Concert, oui.
Bam Concert. Bamco, c'est autre chose. Bam Concert, là, c'est quoi? Il s'agit de quoi? C'est le grand.
Bam Concert, c'est le résultat de plusieurs réflexions.
Oui.
L'aboutissement d'un certain désir aussi. De continuer d'une part, mais d'être plus présent ou de façon plus concrète dans une certaine, j'allais dire clientèle, mais c'est pas le mot que je voudrais choisir. C'est plus avec une certaine catégorie d'artistes qui sont dans des secteurs de musicaux qui sont plus alternatifs, marginaux.
Oui.
Et qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin de support, qui ont besoin de formation pour certaines choses, qui ont besoin de contacts professionnels qui peuvent les amener à aller plus loin, à ce que ça soit plus facile, leur éviter de faire certaines erreurs.
Oui, oui.
BAM Concert va produire des spectacles, va produire des festivals, va offrir
Une vitrine,
oui, mais va offrir aussi des trucs clés en main.
Wow. Du coaching, de l'accompagnement.
Du coaching, de l'accompagnement. Je pense à des c'est assez large parce que ça fait partie de ce qu'on fait, nous.
Oui.
Et quand je dis nous, dans l'équipe, nous sommes tous des gens qui ont différentes spécialités,
oui.
Force okay. Et expérience à différents niveaux. Mm-hmm. Si on met tout ça ensemble, on est capable de créer des événements. Puis là, je vais prendre un exemple. Là. Je sais pas moi, un petit programmateur de petit festival dans un petit village à quelque part veut produire un événement. Il y aura peut-être pas tout ce qu'il faut.
Oui.
Nous, on peut y apporter tout ça. Mmh. On peut y apporter tout le réseau, les contacts, les fournisseurs, l'aider, l'encadrer, lui donner la chance que son événement soit fonctionnel et professionnel.
Et professionnel, ouais. Et d'ailleurs, vous le dites, BAM Concert se veut rassembleur. On veut organiser des événements pour les musiciens et les aider à bien se positionner dans l'échiquier culturel. Ça, c'est une de vos citations, ça. Voilà. Ouais. Là, c'est intéressant quand même. Hein. Voilà.
Ouais.
Là, on va... Et puis, parlez-nous un peu de... comment dirais-je, BAM & Co. BAM & Co, c'est quoi?
BAM & Co, c'est le...
Qui a été mis en place en 2018.
Oui, BAM & Co, c'est le petit frère, c'est une compagnie de disques.
Oui.
Le petit frère qui appartient à la boîte à musique.
Oui.
BAM & Co, avec BAM & Co, il y a plusieurs styles musicaux au fil de 30 ans.
Oui.
Dans le 22-22 Ontario, il est passé de tous les styles musicaux.
Oui.
Populaire, jazz, blues, heavy metal, punk, classique.
Tout un melting pot, quoi.
Tout un melting pot. Mm. BAM & Co, c'est la compagnie de disques qui va produire différents projets.
Oui.
BAM & Co EV, c'est la première division, la division heavy metal, la musique heavy et punk, avec qui on avait une affiliation ou une affection particulière.
Oui. Comment ça porte la musique, la heavy metal au Québec, au fait, Steve?
Comment se porte la musique heavy metal?
Oui.
Il y a une scène incroyable.
Oui.
Il y a beaucoup d'artistes de bandes heavy metal québécois qui marchent à l'international plus que ce qu'on pourrait...
Plus qu'au Québec même.
Ben,
ils sont plus connus à l'international que chez nous ici au Québec.
Groupes,
oui.
Pour certains groupes, oui, c'est vrai. Le marché du métal, ben, on le voit avec les grands festivals là, comme EVMTL ou le festival de Montebello.
Oui.
Même le festival à Lévis. Envoie les Macadam à Québec, qui a un volet, il y a autre chose, mais il y a beaucoup de musique métal ou punk. il y a un public pour ça.
Ouais.
Il y a une clientèle pour ça, il y a un marché pour ça.
Oh ouais, okay.
Et les fans de musique métal sont très, très fidèles. On le voit, nous, beaucoup. D'ailleurs, je fais un petit retour. On a fait, avec BAM Concert, pendant la pandémie, l'année dernière, l'automne dernier, et dernièrement, ce printemps, on a fait deux petits événements, deux petits festivals, les BAM Festivals, qui se sont tenus dans le stationnement du 22-22 Ontario.
Oui.
Le premier, l'automne passé, c'était fantastique. Les gens en avaient besoin de se rassembler. On avait eu une petite ouverture du point de vue sanitaire. On a pu en profiter. Ça a été vraiment absolument génial. Pour nous, ça a été... C'était un petit peu la confirmation,
oui,
de ce qu'on voulait faire et de ce qu'on pouvait faire.
D'accord. On va terminer avec le déménagement. Steve,
oui.
Après 30 ans au 22-22, où est-ce, oui, que vous partez maintenant? Où est-ce que vous dirigez? J'ai vu la Cité 2000, oui, qui sera prête pour la rentrée. Alors,
oui,
ouais, moi, je vais vous le dire, Steve, sérieusement, je déteste les déménagements. Ça doit pas être... Qui aime déménager?
C'est pas un déménagement. C'était pas le premier choix. Hein?
Ah ouais?
C'est pas voulu. Non. Si ça avait pas été de la pandémie, la pandémie est d'un droit de préemption émis par la ville de Montréal. On n'aurait pas déménagé. On
OK,
pas
d'accord, d'accord, d'accord. Allez-y, parlez-nous un peu brièvement de ça, de ce déménagement-là.
Ben, le déménagement, c'est qu'on s'en va dans la Cité 2000. La Cité 2000, si vous connaissez, c'est il y a des centaines de locaux,
oui,
dans ça,
oui,
dont 215 locaux de répétition, qui sont la majorité des locaux sont partagés par un ou deux groupes,
oui,
par deux ou trois groupes.
C'est situé où là? C'est où?
Ça, c'est 2000 rue Notre-Dame, à côté de la Molson. Si on descend Papineau, là, on arrive,
je vois,
direct devant la porte.
Je vois, oui, oui.
Et puis, c'est une très, très grosse communauté de musiciens.
D'artistes, oui.
Oui, de toutes les sortes. Il y a d'autres types de d'artistes autres que musiciens. Il y a de la photo, il y a de la vidéo, il y a des...
Les arts visuels, il y a un peu de tout, quoi. C'est une communauté artistique,
oui,
qui se retrouve là.
C'est une bâtisse qui appartient à U-Haul. Mmh. U-Haul, ils ont des énormes entrepôts, énormément d'entreprises de cinéma, de télé,
okay,
de décors ont leurs entrepôts dans cette bâtisse.
Mmh.
Pour nous, on se rapproche d'une plus grande communauté. Ça va permettre aux musiciens qui passaient chez nous dans le 22-22 Ontario de se trouver
des locaux de répétition.
Des locaux de répétition, un peu différents. Notre modèle d'affaires était des locaux de répétition en location à l'heure, tout équipé.
Oui.
Là, pour l'instant, on va prendre une pause de ça. On verra dans le futur. On va prendre le temps d'avaler et de digérer ces gros changements.
OK.
On reviendra avec... Il y a des plans.
C'est pourquoi j'ai dit, quand j'ai abordé le thème déménagement, j'ai dit, c'est pourquoi je déteste l'éménagement, là, parce que c'est... personne n'aime ça, Steve. J'espère que... Est-ce que les artistes qui nous écoutent, là, qui se disent, surtout les gens de la relève qui n'ont pas... qui ont besoin de se faire mentorer, en voie du coaching, tout ça, comment ils peuvent vous contacter?
Ben, ils peuvent nous contacter par la boutique. Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par courriel, ça,
oui,
peut se faire via notre site web. Je pense que via le site web, c'est la façon la plus facile.
Oui.
Boiteamusique.ca.
Oui.
Tout simplement. Et puis, nos coordonnées sont là facilement pour nous rejoindre. C'est très, très simple.
Oui.
Sinon, Facebook aussi, on est assez actif sur Facebook.
Oui.
Facebook, / boiteamusique.ca.
Oui.
C'est une manière de nous rejoindre facilement.
D'accord. Avant de vous laisser partir, dites-nous à peu près, quand vous dites pour la rentrée à la Cité, oui, 2000, à peu près.
Ben, on est déjà, je vais vous confier un petit secret.
Oh oui, ça fait ça. OK, allez-y, Steve.
On a déjà une boutique d'ouverte à la Cité 2000.
D'accord.
C'est déjà fonctionnel.
OK.
Et puis, le restant du déménagement va se faire à partir du 15 juillet.
D'accord, d'accord.
Ça va se faire sur environ un mois,
oui.
Mais on va toujours être fonctionnel pendant cette période-là.
Et de toutes les façons, je vais vous réinviter pour venir parler quand tout le déménagement sera totalement fini, pour venir nous parler de votre nouvel emplacement et puis comment les gens trouvent ça, vos clients, voilà, vos collaborateurs. Et merci beaucoup, Steve.
Et
Marc, oui, président de la boîte à musique qui se retrouve, il a 30 ans sur Ontario SO2222. Maintenant, à partir de maintenant, d'ici juillet, officiellement, ils seront à la Cité 2000. Merci, bravo, bonne continuation, bon vent.
Merci.
Au plaisir de vous réécouter pour nous parler des nouveautés là-bas à la Cité 2000.
Absolument.
Merci beaucoup, Steve Marco.
Bonne fin de journée.
Merci à vous aussi.
J'espère de pas tomber en amour avec toi. L'amour, ça me fait les blouses à chaque fois. Au rythme de la musique qui joue, je sens ton cœur qui bat. Je buvais ma bière tranquille, mais là, je t'entends m'appeler tout bas. J'espère de pas tomber en amour avec toi. On est bien tassé, y a du monde partout. Si je t'offre une chaise, j'ai peur d'avoir l'air fou. Si tu t'assois avec ce gars-là, rends-y son air de bœuf. D'ici que la soirée finisse, je serai peut-être moins nerveux. J'espère de pas tomber en amour avec toi. C'est drôle l'effet que ça fait quand t'es un gars. Les trucs de phéromones pis de mâle alpha. Je me retourne juste pour te regarder dans la trolley urbaine. Je voudrais tellement aller te parler, mais on se connaît à peine. J'espère de pas tomber en amour avec toi. Je vois bien que t'es toute seule tout autant que moi. Il se fait tard, tu voudrais peut-être qu'on se revoie. Je me retourne juste pour te regarder, tu me regardes aussi. Le gars assis à côté de toi s'en va, puis tu rougis. J'espère que tu tombes pas en amour avec moi. Fermeture, on baisse le son. Pour mon lascol, un whisky sans glaçon. Je me retourne juste pour te regarder. T'es pas là, t'es parti. Je cherche partout, je bois un coup. C'est l'histoire de ma vie. Puis je pense que je suis tombé en amour avec toi. Puis je pense que je suis tombé en amour avec toi.
Fred Pellerin, j'espère de pas tomber en amour avec toi. Voilà, je vais terminer comme ça l'émission avec le tennis Roland Garros Paris, Rafael Nadal qui part en finale, après l'abandon d'Alexander Zverev, blessé à une cheville. Alors, voilà pas. Voilà, les images sont pas bonnes à voir. Hein, ce jeune tennisman d'ailleurs qui Nadal avait remporté le premier set et Alexander s'apprêtait. S'apprêtait à disputer le deuxième tie-break, 7-6-6-6, et puis bon, ouais, le jeune Allemand s'est blessé à la cheville droite et a dû abandonner. Nadal disputera donc sa 14e finale à Roland-Garros. Oui, quand j'ai vu les images, j'ai dit, mon Dieu, j'aimerais pas être à sa place. Hein. On lui souhaite un prompt rétablissement pour les prochains tournois. Il hurlait de douleur, hein. Ça, c'est vraiment l'image terrible à voir, je vous le dis. Alexander Zverev, à terre, terrible, parce que la douleur de l'Allemand... D'ailleurs, elle palpable par tous les spectateurs du cours. Moi, j'ai vu la vidéo, les vidéos, les photos. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ne font que se blesser ces derniers temps, ces joueurs de tennis, là. Que ce soit la petite Leila Fernandez aussi, notre Québécoise, qui a été éliminée par, qui a été éliminée dernièrement, d'ailleurs, un quart de finale, si je ne me trompe pas. Et elle aussi, elle a eu une blessure. Il y a d'autres qui sont partis aussi à suite de blessures. Même Nadal, je pense bien que comme le bruit qui court déjà d'ailleurs, et ça va être son dernier Roland Garros, on le verra bien, parce qu'il lui aussi souffre de quelque chose, d'une maladie qui ronge autour des os depuis le début même de sa carrière, paraît-il. Il s'était reposé, il est revenu. Alors Alexander Zverev, le jeune Allemand, n'a pas pu contenir, forcément déçu. Malgré la victoire, Nadal n'a pas voulu aborder sa qualification pour la finale et s'est limité à parler de son malheureux adversaire. Je suis très triste pour lui. Il faisait un très bon tournoi. Je sais à quel point il se bat pour remporter un titre de Grand Chelem. D'ailleurs, il y arriverait en plus d'une fois. Quand il joue à ce niveau, il est un des plus grands challenges sur le circuit. Je lui souhaite le meilleur et bon rétablissement. Et Nadal, on voit les photos de Nadal accroupi, en train de le tenir, en train de le soulever, de l'aider avec le service médical. Tu dis, waouh, si tous les adversaires pouvaient être comme ça, face à leurs adversaires, quand leurs adversaires sont à terre, par terre, suite à une blessure, tu diras, donc Nadal va en finale. On ne sait pas qui va rencontrer, il y a une autre demi-finale, je ne sais pas. Je ne connais pas le résultat, donc je vous en parlerai le lundi. La semaine prochaine, en début de semaine, un prompt rétablissement à Alexander Zverev et Nadal va en finale. Il y a Caroline Garcia et Christina la Donovic qui vont en finale double femme. Voilà. Et oui, c'est ça. Caroline Garcia et Christina la Donovic ont remporté aujourd'hui la demi-finale du double face à Lyudmila Kichonok et Yelena Ostapenko, 2-6-6-4-6-2. Ils vont jouer leur finale, bien sûr. Et ce sont c'est les Françaises dominées au premier set par l'Ukrainienne Lyudmila Kichonok et la Lettonne Yelena Ostapenko ont su renverser la vapeur d'un match longtemps interrompu par la pluie, victorieuse des deux derniers sets face aux têtes de série numéro 14. Donc les Françaises auront l'occasion de gagner dimanche au moins une deuxième fois Roland-Garros ensemble, c'est le double, après le titre en 2016. Elles seront opposées aux Américaines Coco Gauff, la petite de 18 ans, également qualifiée pour la finale du simple, et Jessica Pegula, qui ont éliminé leurs compatriotes Madison Keys et Taylor Townsend, 6-4-7-6 avec 4 breaks. Et Daniel Desbrouck est qualifié pour la finale de Roland Garros Junior, 16 ans. Il s'est qualifié aussi aujourd'hui pour la finale de Junior grâce à sa victoire face au Croate Dino Prismic en demi, 6-0, 0-6, 6-3. Il va tenter demain samedi de succéder à son compatriote Lucas Van Hache. Ça c'est aussi fait. Nicolas Pfeiffer et Stéphane Houdet s'inclinent en demi-finale au double tennis fauteuil à Roland Garros. Il y a aussi, voilà, donc eux aussi ils sont qualifiés. Ça c'est fait. Mais ce calvaire de Alexander, vraiment c'est C'est, je vous le dis, je ne souhaite à personne. Mats Wilander, le grand, c'est grâce à cette victoire à Roland-Garros que je joue de la guitare. Il dit, 40 ans après sa première victoire à Roland-Garros, le Suédois Mats Wilander, c'est lui qui va remettre la Coupe des Femmes en fin de semaine. Merci à toi Maurice, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à notre invité Steve Marco, président de la boîte à musique. Et puis ils vont déménager du 22 à la Cité 2000. Je dis merci à vous, fidèles et ceux qui viennent de découvrir l'émission. Belle semaine à vous, belle fin de semaine. Et bon vélo, bon tour de l'île pour les Montréalais. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis ciao.